Bonjour à tous et bienvenue pour cet entretien avec Brentwix. J'espère qu'on sera un peu plus nombreux et c'est parce que vous n'avez pas encore répondu la bonne nouvelle et indiqué qu'il fallait absolument lire cet auteur qui est vraiment, je pense, vous le savez déjà, quelqu'un d'assez exceptionnel au niveau de la qualité de ses histoires et qui, à mon sens, et c'est pour ça que c'est moi qui anime cette table ronde, à mon sens, a un petit peu changer des choses dans la façon de percevoir les trilogies, de percevoir le fait d'être amusé par la lecture. Alors, on va commencer par le début. Ceux qui étaient au petit déjeuner, vous auriez dû y être, pour ceux qui n'étaient pas, il va y avoir un petit peu de redite. Il n'y avait plus de place, et bien alors on va tout refaire, on va tout redire ce qu'on s'est dit ce matin. Pourquoi auteur de fantasy?
I became a writer because I discovered very young the writings of Edgar Allan Poe, and this is very strange for a kid who is only in seventh grade, which is 12, 13 years old, to read such scary stuff. But I really made a connection with this person, and he helped me. I had just moved to a new city. I didn't have many friends or really any friends, and I made this connection. I felt like there was somebody out there who if he'd been beside me, could talk to me and understood what I was feeling, and that was kind of a magical connection, and it was very important to me to feel not alone in the world. From there, I went on to Tolkien, and Tolkien was a major influence. And from there, I got an English degree, and I've studied serious literature, and fantasy is just my first love. I find it to be wide open and free. You can do anything that you possibly want to do in fantasy. It just has to be interesting. I love the lack of barriers. I love much it empowers me as a writer, and to be honest, it's just plain fun. It's fun, and a lot of writers, as they get along, I think, in their careers, they forget about that, and they're constantly trying to impress people with how smart they are, and how witty, and how they turn a phrase, and at core, fantasy should delight and teach. I like to challenge my interpreter. So I've been playing little tricks on her all along the week.
Je suis devenue écrivain techniquement parce qu'assez jeune, j'ai lu Edgar Allan Poe. Et je sais que c'est assez étrange pour un garçon de 12 ans de lire quelque chose d'aussi effrayant, mais j'ai vraiment ressenti une connexion avec cet écrivain. Il m'a aidée parce qu'à l'époque, je venais de déménager, je n'avais pas d'amis, je me sentais un peu seule et j'ai vraiment senti une connexion, comme si c'était quelqu'un, s'il s'était trouvé juste à côté de moi, j'aurais pu lui parler, il m'aurait compris. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une relation magique et c'était très important que je ne me sente pas seule au monde. Après Poe, j'ai lu Tolkien, qui a une grande influence sur mon travail également. Après, j'ai fait des études de littérature anglaise, donc j'ai dû lire des choses plus sérieuses. Mais techniquement, mon premier amour, c'était la fantaisie. Et c'est pour ça que c'est ça que j'écris. C'est vraiment un genre de littérature où on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut dès l'instant où ça reste intéressant. Pour moi, il n'y a pas de barrière. Je ressens une certaine puissance en écrivant de la fantaisie. Et surtout, c'est drôle, c'est sympa. Et il y a beaucoup d'écrivains justement qui ont tendance à oublier le fait que c'est censé être une littérature sympa. Alors ils veulent impressionner les gens en faisant des grandes phrases avec des mots super compliqués, juste pour impressionner les gens. Et en fait ils oublient qu'à l'origine vraiment la fantaisie c'est pour le fun, ça doit être sympa et ça doit enseigner quelque chose à la fois. Alors juste je précise que j'aime beaucoup faire des petits défis pour mon interprète, je lui ai placé des petits pièges tout le week-end, donc voilà.
Et sa vengeance sera terrible.
Alors, est-ce que justement, comme certains auteurs aiment à le dire, en ce qui concerne la fantaisie, vous êtes croyant mais pas pratiquant, c'est-à-dire you have the faith.
so great. You go, oh, really? Really? Oh, that's terrible. Okay, I guess I'll try to just read a few more pages. So it becomes a little more difficult as I've gone along in my career to sort of just enjoy the story and stick within the story. But when it happens, when you read something really good as an author, you come back to that first love, and it's mind blowing.
Effectivement, moi je suis vraiment un fan de la fantasy. J'en ai encore. Alors le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière, même si on essaye de continuer de lire pour le plaisir, on a tendance à avoir des arrière-pensées, c'est-à-dire qu'on lit et puis s'il y a quelque chose de super sympa qui se produit dans le bouquin, on va dire, oh, comment elle a fait ça, faut que je m'en souvienne, je vais peut-être essayer de faire un truc pareil dans mon prochain bouquin. Et puis quand c'est pas bon, c'est non, vraiment, t'as fait ça, bon allez, je vais essayer de lire quelques pages de plus, mais bon. Et du coup, ça devient vraiment difficile de juste apprécier la lecture, de lire pour le plaisir. Mais quand ça se produit, quand vraiment on tombe sur un bouquin super bon, ben on retombe dans ce premier amour de la fantasy.
Et justement, quels sont les auteurs qui ont réussi à encore pratiquer cette magie? Et j'ai noté que c'était une chie. Comment a-t-elle fait ça? Quand c'était le moment intéressant?
I've certainly done that in the last year with Robert Hobb's Fits and Fool, the newest Robert Hobb book. And she makes you connect with her characters in a way that's it's so intimate, and it's so moving. So I like to look at, like, how does she do that? And think about it, but then sometimes you forget and you're just reading and you're like, wait, I was gonna figure out how she did that. Darn it, I got caught in the story. It's usually short spaces of time within a story where I totally forget myself and get caught up still. And George does that for me, and Peter Brown's Painted Man did that for me, and sorry, I won't put up a huge list. You guys know the fans to do better than I do. Okay, now I'm going to keep going, just a challenger.
Alors effectivement, c'est le cas par exemple avec le dernier roman de Robin Hobb. Vraiment, elle arrive à nous faire créer un lien avec ces personnages qui est assez impressionnant. C'est très intime et vraiment très, très émouvant. Et je me demande souvent vraiment comment elle fait. Et puis après, je me fais prendre par l'histoire et j'oublie complètement. Et puis je me dis, oh, zut, et je voulais étudier comment elle avait fait pour que ce soit aussi intéressant. Mais l'histoire a pris le dessus finalement. Et c'est vraiment, il y a vraiment comme ça des passages de romans où j'oublie complètement tout et je lis tout simplement. Alors après, bien sûr, je peux citer George Martin et puis Peter Brett avec son c'est l'homme illustré, ou non, c'est le painting.
Merci.
Je me souviens plus du titre en français.
But further answer your question, do you fully engage with fantasy? When we started going to fantasy conventions, we never gone until I became a published author because we were too poor, so we couldn't afford to go. And when we first met, my wife asked, "Do we need to dress up in those costumes?" And so I am a fan of fantasy, but there's parts of fandom that are still rather strange to me. So I'm still learning.
Alors effectivement, moi je suis vraiment à fond dans la fantasy. Par contre, les premières fois qu'on allait dans des conventions, j'y allais jamais avant d'être publié parce que techniquement j'étais trop pauvre. Donc une fois que j'ai été publié, je me suis rendue dans des conventions spécialisées fantasy. Et la première fois qu'on y allait avec ma femme, elle m'a dit, on est vraiment obligé de se déguiser comme tous ces gens-là. Donc oui, j'aime la fantasy, mais il y a certains aspects que je trouve encore un petit peu étranges.
D'ailleurs, quel est votre sentiment sur la situation de l'édition fantasy aux États-Unis? Est-ce qu'on va vers l'épuisement? Est-ce que les gens se lassent? Est-ce que George Martin est un peu l'arbre qui cache la forêt?
I think fantasy is very healthy in the United States, and not just the United States, around the world. There's British authors who are writing fantasy. There's French authors who are slowly cracking the English translation market. I know Pierre Pavel was translated into English, and I think the fantasy stories are they sometimes have a chance of paying for children. But really, fantasy stories are some of the oldest stories. I see us as being the heirs of Homer. The stories that have magic, that have a mythology, that have action, but also deeper meanings, that ask us deep questions and make us think about our lives in different ways, separated from perhaps our political views and our particular views of the situation of our world. Oh, those people are, that's happening to those people because they deserve it, or whatever. Fantasy can pull you out and make you look at them from a different perspective. And I don't see that ending anytime soon. In many ways, I think what we're seeing right now is a golden age of fantasy. There's a lot of great work being written that people will look back on and be like, that was a special time.
Alors moi, je pense que la fantasy se porte vraiment très bien, que ce soit aux États-Unis ou même dans le monde. Je sais qu'il y a plein d'écrivains britanniques qui marchent très bien. Il y a les écrivains français qui, tout doucement, commencent à percer à l'étranger aussi, parce que moi, avec les traductions, c'est un peu plus difficile. Mais je sais que Pierre Perel a déjà été traduit en anglais. Et pour moi, vraiment, la fantasy, ce sont des histoires, souvent on pense que ce sont des histoires pour enfants, mais pour moi, ce sont les plus vieilles histoires qu'on n'a jamais racontées. Et pour moi, nous sommes tous héritiers d'Homère, quelque part. Pour moi, ce sont des histoires où il y a de la magie, où la mythologie en fait partie, mais où on se pose des questions bien plus profondes qu'il n'en a l'air. Quelque part, on se détache du monde dans lequel on vit, de la politique et de tout ça, et on va dans un autre monde où on peut en fait étudier les mêmes problèmes, mais d'une perspective complètement différente. Et du coup, pour moi, je pense que c'est pas là de se terminer. On a encore de beaux jours devant nous. Pour moi, aujourd'hui, on vit vraiment un âge d'or de ce genre littéraire. Il y a vraiment de très bons ouvrages qui sont publiés, et plus tard, on regardera ces ouvrages en se disant que bah, oui, c'était vraiment l'âge d'or.
There is something about the huge trees hiding the forest that you're asking about. We've had these really big stars in fantasy. J.K. Rowling comes along and blows the doors off of everything, and people go, "Oh, everybody's going to read a lot of their fantasy after that." And then there's not as much of an effect for everybody else. People will say, "Well, I don't like fantasy, but I like J.K. Rowling. And I don't like fantasy, but I like George Martin." And people are kind of in denial about what they're reading, and it is a little bit troubling in our time period, just with how connected the world media is. You have stars, and then you have superstars, and it's George Martin is wonderful and he's great. And I actually look at his work and I study what he does, because he does so many things well. But he sells 100 times as much as somebody a level or two down. Is he 100 times better than them? No, he's not. And so we do get caught up a little bit in the celebrity culture that's going on in our whole world, and so some people don't get the recognition that they quite deserve, and that's sad, but that's just part of the arts.
Donc effectivement, vous parliez tout à l'heure de l'arbre qui cache la forêt. Alors c'est vrai qu'on a vraiment des grandes stars comme Rowling qui a écrit Harry Potter. Elle, on avait vraiment eu l'impression qu'elle avait juste fait sauter la porte et que tout le monde allait se mettre à lire de la fantasy. Mais au final, ça n'a pas eu tant d'effet que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah, j'aime pas la fantasy, mais j'aime bien
successfully. I think we'd see a lot of other people copying it as closely as possible. Somebody likes that first book, because otherwise we're in real trouble. And I didn't think it at the time, but that was a real blessing that we didn't have the first book deal.
Alors, en fait, je me suis retrouvée dans une super situation, même si à l'époque ça ne me paraissait pas aussi super. C'est que mes trois romans n'étaient pas publiés. Enfin, quand j'ai écrit le premier roman, il n'a pas été publié tout de suite. Techniquement, en fait, je ne travaillais pas, je restais à la maison, c'était ma femme qui travaillait. Je restais à la maison, je faisais la vaisselle, je préparais les repas, je l'attendais le soir quand elle rentrait du travail avec une petite robe pour lui faire un bisou. Là, je plaisante, mais. Donc, c'était pas une relation tout à fait traditionnelle, on va dire. Je ne gagnais pas d'argent, ça a été vraiment très difficile pendant 5 ans. Et en fait, quand j'ai eu terminé l'écriture du premier roman, je me suis dit, le plus intelligent à faire, c'est d'arrêter là. Et d'écrire quelque chose de complètement différent au cas où le premier roman ne se vendrait pas. Et en même temps, j'avais vraiment envie d'écrire le deuxième roman, de la suite du premier. Et du coup, je suis allée voir ma femme, je lui ai dit, écoute chérie, qu'est-ce que je fais? Ça fait un an et demi que j'écris le premier roman, ce qu'il faudrait faire techniquement, c'est de passer à autre chose, mais j'ai vraiment envie d'écrire le second, qu'est-ce que je fais? Et elle m'a répondu, fais ce qui toi te passionne. Bon, du coup, j'ai écrit le deuxième roman, un an et demi de plus, j'ai écrit le troisième, et c'était vraiment un coup de poker. On a parié, on a mis tout sur la table, on a tout mis sur le tapis, et on a juste, je me suis dit, j'espère vraiment que le premier roman va se vendre, parce que sinon, ça fait juste 5 ans que je bosse pour rien. Et à l'époque, vraiment, ça paraissait pas être une situation très enviable, et au final, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux.
The reason that it was a blessing in disguise, I'd say, was that I had time. I had no other voices coming into my head. I didn't have bloggers saying this was stupid. I didn't have people saying, oh, we want more of this. I had this this terrifying, artistic freedom. I just wrote what I wanted to write. I wrote what I thought was awesome. I wrote what I wanted to read, and I made mistakes, and I did things differently than I would have done. In some ways worse, but with full passion. So I like to think of the Night Angel trilogy as vibrant with some rough edges. I was able to put my whole heart into it, and it's not perfect, but it's powerful. And I was able to do that because I finished all three books without any other voices coming in.
Alors effectivement, effectivement, si je trouve que c'était une bénédiction, en fait, c'est parce que du coup, j'ai eu le temps d'écrire sans avoir personne d'autre qui me disait, genre des blogueurs qui me disaient oh là là, ce qu'il a écrit, c'est vraiment idiot, ou alors des gens qui me réclamaient désespérément la suite. J'étais complètement libre, donc j'ai vraiment écrit ce que j'avais envie d'écrire. Alors, certes, j'ai commis quelques erreurs, mais je l'ai fait vraiment avec toute la passion dont j'étais capable. Pour moi, la série de L'Ange de la Nuit, elle est vraiment pleine de vie, et même si elle n'est pas parfaite, elle est assez puissante parce que j'ai vraiment travaillé avec mon cœur et j'ai été sous l'influence de personne d'autre parce que personne n'avait lu mon travail.
Bien, justement, vous évoquez les réseaux sociaux et le poids des blogueurs et le poids du relationnel avec les lecteurs. Est-ce que ça a changé maintenant pour vous? Est-ce que vous êtes comme Patrick Rothfuss, quelqu'un qui communique sur sa petite fille ou sa petite famille? Est-ce que vous êtes amie avec Sam Sykes, avec Peter Vibrette? Vous échangez sur Twitter? Quelle est votre relation avec le lectorat et avec les réseaux sociaux?
That's been a huge challenge of figuring out what exactly do I want my social presence to be, and how much of my life do I share with people. And what I decided was that I didn't want to run a blog because I'd write a post with all my thoughts, and then I'd think about all the negative ways people could take a quote out of that and throw it back at me 10 years later. And so I would rewrite, and then I would massage it, and I'd think about it, and then I'd spend hours on something, and then I would end up not posting it because I was too nervous or whatever, or somebody could possibly take this wrong somehow. And so I decided, no blogs for me. I'm not going to talk about politics. I'm not going to talk about a lot of these touchy things that will alienate some readers. So instead, on the website, I have news. So when I have news, I post some things, and I have a writing advice column, which I say, this is just mine. These are my thoughts. I'm not the authority. Maybe some things I have to say will help you. But I keep that side of things a little less personal. It still has the flavor of my personality, but I don't have pictures of my daughter on there. I don't get too personal on the website. I'll talk about this.
Oui, effectivement, c'était un vrai défi de décider quelle serait ma présence sur Internet, à quel point je voulais partager ma vie avec les gens. Et alors, j'ai décidé assez vite de ne pas faire de blog parce que j'essayais de préparer un article à publier. Et puis, je le relisais, je me disais, oula, ça peut être mal pris, ça, on peut le citer hors contexte et ça peut être mal pris aussi. Les gens, on pourrait le ressortir dans 10 ans. Donc, j'y passais des heures, je réécrivais, puis au final, je le postais pas parce que je me disais, il y a encore quelqu'un qui pourrait prendre de travers. Donc, je me suis dit, ok, pas de blog, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de sujets un petit peu sensibles. Du coup, j'ai préféré faire un site web où j'ai mon actualité. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, là, par contre, j'actualise pour le dire aux gens. Je parle un petit peu, mais je ne parle pas de ma vie personnelle. Il n'y a pas de photo de ma fille sur le site internet ou quoi que ce soit.
I do Facebook, I do Twitter. I'm friends with some of those guys, with your friend Sam and Pat and some other writers. And so we joke and we tease a little bit back and forth. And I like to engage. It's nice to, Twitter's nice way to talk to readers because it's only a couple sentences at the most. So you can be like, yes, I see what you said. I really appreciate it. But I can't write you a 1,000-word email back right now. I do also try to answer emails. It's totally different than when I wrote my first series. It's like the readers have expectations, and they want to talk to you, and I want to talk to readers. It's really fun for me to talk to people who have engaged with my art in some way. But it's also, they engage with my art in some way. The books are what matters. If you don't write books, you're just a Kardashian. So it's very challenging to keep the book the main thing. The books are the main thing. So I try to, in social media, but not let it overwhelm the work.
Oui, bien sûr.
sur les réseaux sociaux, mais de m'intéresser quand même plus à mon travail que à ça.
You have no idea how good it makes me feel that you guys didn't know what Kim Kardashian was.
Je suis très fier que vous n'ayez aucune idée de qui est Kim Kardashian.
Alors en fait, si, moi j'ai une idée, mais c'est, je suis tellement unique que j'ai pensé à aux Kardashians de Deep Space Nine, qui est une série de Star Trek.
Sometimes it does, it's funny because I'll talk to like certain people are a little more forward on social media. I mean, not in a good way. Like they'll just talk to you numerous times, and after a while, this thing pops up on your feed so many times, saying little things to you, and you sort of feel like you know that person, and then you'll meet them in real life, but often they have they have their real name, and then their Twitter name is something different, and you don't even really. Can't remember all of their names, and it's like, could you please come with your Twitter icon? Because I remember that. Anyway, so it is fun. Sometimes you kind of build an actual relationship with people who are like you said, kind or thoughtful things to me many times online, and I've become friends with fans that way. Other times people can be annoying, but that's just. That's just the way the world is, so.
Oui, des fois ça change la relation parce que il y a des gens qui sont assez présents sur les réseaux sociaux et du coup qui viennent me parler à de nombreuses reprises et à la fin j'ai l'impression de les connaître. Et puis en fait, je les rencontre dans la vraie vie. Le problème c'est que ils n'ont pas le même nom sur Twitter et c'est pas leur vrai nom. Alors du coup, en gros, j'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous pourriez venir avec votre petite icône Twitter pour que j'arrive à reconnaître qui vous êtes, parce que sinon je suis un peu perdue. Et des fois, on arrive à avoir des relations assez naturelles. Quand les gens nous parlent souvent sur Internet, et du coup, ceux qui vraiment vont être très gentils, faire des commentaires sympas sur les bouquins plusieurs fois, plusieurs reprises, on finit par, des fois, on crée des relations d'amitié vraiment avec des fans. Bon, puis après, il y a des gens qui disent des trucs qui sont un peu plus chiants, on va dire.
Et est-ce que pour en revenir au cœur du sujet, vous l'avez dit, les livres. Est-ce que les lecteurs, vous avez parlé de votre grande liberté sur la première trilogie, puisque vous écriviez sans interaction extérieure, est-ce que ça a changé? Est-ce que l'éditeur, dans un premier temps, et les lecteurs vous donnent des indications sur on voudrait ci, on voudrait ça, allons plus dans ce justement, Marion, machin et truc.
It certainly has changed, and it's taken me a while to go from. It's taken me a while to adjust, I think, emotionally, to go from having nobody know who you are, and you're terrified that nobody will ever know who you are, to having a lot of people have expectations of every book. Like, no, don't write something different. I want just Night Angel books forever. And they should be just like those first ones because that's what I loved. And please don't change or be different. And it's like, well, that's artistic death for me. Every book has to be different. I'm not interested in selling as many widgets as I can. I'm interested in telling human stories. And as I grow and change and I become father and as I go through different phases of my life, I feel more passionate about different things. It actually makes me really happy when I have fans tell me this book was my favorite, and then you different fans says, no, this book was my favorite. No, this book was obviously your best. As long as they don't all point to one and say that one was obviously your best, and everything since then has been terrible. That would hurt my feelings a lot. But I hear it does happen to writers. So never go to a writer and say, oh, I really loved your early work. Just look at their face when you do it.
avait juste un bouquin, je me dirais, bon, c'est vraiment le meilleur. Et puis, bah, ça me fait un petit peu mal au cœur, on va dire. Et du coup, soyez sympa, ne dites jamais à un auteur, j'ai adoré vos premiers bouquins, là. À l'époque, c'était vachement bien, quand même. Parce que, ou alors, si vous êtes super méchant, vous lui dites ça, puis vous regardez la tête qu'il va faire. Il risque de pas apprécier.
C'est une orientation un peu différente pour les auteurs traduits en France, parce que souvent, les premiers travaux, ce n'est pas votre cas, mais les premiers travaux sont traduits une fois qu'un gros succès a été traduit en français. Donc souvent, on a plutôt la deuxième œuvre traduite, tout le monde dit, mais c'est la première est meilleure. Oui, parce que la vraie première, c'est celle qui est traduite après. Est-ce que justement, on va aborder le cœur des livres, de quoi avez-vous envie de parler dans L'Ange de la Nuit, de quoi avez-vous envie de parler dans The Black Prism, dans le prisme noir, pardon, et quels sont pour vous les enjeux dont vous n'avez pas envie de parler dans la vraie vie, mais que vous aimez traiter en fantaisie? Alors, le fait qu'en fantaisie, on peut parler des choses qui pourraient blesser les gens ailleurs, qui sont des sujets polémiques.
We'll certainly talking about power and talking about how power influences obviously both those who are its object and by those who wield it. They're talking about really challenging moral problems. Talking about how does a person lead, and like in our society, if we talk about the president, it's like you come to that either in America as a Democrat or as a Republican, and so there's a bunch of freight. And if the president talks about something totally different, you know, now he's talking about trade or something, it's totally disconnected from what he's usually talking about. Like, oh, he likes it, well, we don't like it because we're Republicans, or oh, he likes it, we do like it. Well, like, we never come to these things with slate. So talking about a leader and the way they make decisions is something that I've liked to look at in the Lightbringer series of making hard decisions and making decisions where people die. And but I also like to talk about especially in Lightbringer series blind spots. And every culture has blind spots. In this series, I've talked about this culture. Like one thing that I hadn't seen very much in fantasy series was slavery, and slavery was just a fact of the human condition. And in almost every society, there was some sort of slavery, and it turned out that it turned out there's a lot of different kinds of slavery. And when you say slavery to an American, they think slavery in the American South, and it's called chattel slavery. It's the person belongs to you. You can do anything you want with them. But there have been communal slavery. The Spartans practiced that. The whole community belonged to you. They had certain freedoms, but they had to do certain things. And I'm giving up trying to way too much here. So.
Alors, moi, ce que j'aime, c'est parler du pouvoir et comment le pouvoir peut influencer les gens, à la fois ceux qui le subissent et ceux qui ont du pouvoir. J'aime parler des problèmes moraux et surtout, j'aime parler de comment on peut être un leader, que ce soit un bon ou un mauvais. Par exemple, aujourd'hui, si je parle du président, on va tout de suite me catégoriser comme démocrate ou républicain. Et puis après, bah, selon ce que je vais dire, si je suis démocrate, les républicains vont dire bah, « non, on n'est pas d'accord ». On ne peut jamais s'en sortir quelque part. Moi, du coup, je me sers de la littérature pour montrer juste comment un leader prend des décisions. Et c'est particulièrement vrai dans la série du Porteur de Lumière. Il doit prendre des décisions très difficiles et des gens en meurent. Et je pense que dans toutes les cultures, on a comme ça des choses qui sont juste devant nous, mais on ne les voit pas parce que ça fait partie de la culture. Et donc, spécialement dans la série du Porteur de Lumière, je voulais parler d'esclavage parce que pour moi, ça fait partie de la condition humaine dans beaucoup de sociétés. Et il y a beaucoup de différentes façons de forme d'esclavage. Si on parle à un Américain, tout de suite, on lui dit esclavage, il va penser le sud des États-Unis, le fait de posséder quelqu'un et de pouvoir lui faire faire ce qu'on veut. Mais il y a aussi des esclavages de groupe, entre guillemets, ce qui était
communautaire
chez les Spartiates, c'est ça. C'était là où là, par contre, c'était carrément tout le peuple qui était assujetti, en fait.
In the ancient world, in Greece or even in Rome, slavery was not racially based. It wasn't like those people look like that; they must be slaves. You could be any race and be a slave. I mean, granted, if you looked very French, Gaulish, you were probably. But it was like you could lose a battle with somebody, and suddenly you find yourself to be slaves, and so it looked really different. It had different social effects. And yet, it still had moral effects on people. And people thought, this is something that the world can't function without. This slavery is just a fact of life. Like, this will never go away. So when I have the main characters, when they're dealing with slaves, it's like, I have these moral people, and they deal with slaves like most other people deal, like the people in their culture deal with slaves. They're like, oh, I try to be good to them. But that's about as much as they think. And so I've had people write to me, how dare you have these guys treat slaves like this? That's so dehumanizing. That's the point. If there are these evils that can be right in front of us that we just accept. And so by illustrating those fairly for the people who are on both sides of having some slaves and having them be major characters and having slave owners be in this book, don't really see the slaves as human. One character says, he thinks, I kind of love this woman, but like you love a dog, because you can't love a slave. Like that's weird. That's not appropriate. So trying to show the blind spots of this society is in my way. I'm trying to do it subtly to say, if every society has these blind spots, what are ours? What are the evils that we allow that are right in front of us? And 100 years from now, people will be like, how could they do that? Because I believe there are some.
Donc, effectivement, que ce soit dans les anciens temps, la Rome antique ou en Grèce, l'esclavage existait déjà. C'était pas forcément une question de race. Par exemple, vous pouvez juste perdre une bataille et les personnes qui avaient perdu devenaient des esclaves. Les conséquences sociales étaient différentes. Mais c'était pareil. Enfin, il y avait un respect moral. Les gens pensaient que c'était normal, qu'on en aurait toujours besoin et qu'il y aurait toujours des esclaves, que ça ne disparaîtrait jamais. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est mettre justement des personnages principaux qui ont une certaine moralité pourtant, mais qui ont des esclaves et qui acceptent ça parce que ça fait partie de leur culture. Ils considèrent que c'est normal. Alors oui, ils vont essayer d'être aussi gentils que possible avec leurs esclaves, ils vont les traiter correctement, mais ça n'ira pas plus loin. Et du coup, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent, mais comment osez-vous mettre des esclaves comme ça, qui soient traités de façon complètement inhumaine? Et justement, en fait, c'est le but. Moi, ce que je veux démontrer, c'est que les sociétés comportent certains mots qu'on accepte sans se poser de questions parce que ça fait partie de la culture. Et justement, je voulais montrer des esclaves qui étaient des personnages importants et des personnages importants qui possédaient des esclaves, qui ne les considéraient pas comme des humains. D'ailleurs, il y a un des personnages qui dit à un moment j'apprécie beaucoup cette esclave, mais comme j'aimerais mon chien, parce que quelque part, on ne peut pas aimer un esclave. Et justement, j'essaie de dénoncer ça, j'essaie de le faire de façon assez subtile, et surtout faire en sorte que les gens se demandent justement si eux, ils acceptent ça, nous, qu'est-ce qu'on accepte dans notre société, mais qui est quelque chose de mal également. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce que ça fait partie de la culture, et peut-être que dans 100 ans, les gens diront comment ils ont pu faire ça.
I dislike fiction that's preaching, it's all about the message, but what I like to do is I like to make people ask the right questions.
He decided to realize.
audience advise, hey, when are you really just a bad guy? And we should give up on you, but we don't because the writer does a good job. or something. So I think I'm going to bring explore that probably for my whole life. What does that mean? What does it mean to hold power? What does it mean to do things wrong? And how can you make that up to people? And how can you make that up to societies? So I have a lot of, what does it mean to, one of the key questions of the Lightbringer series is, what does it mean to be a person of integrity? And can you live that way? And can you live that way when you're in public life? Can you live that way in your private life? What do secrets do to you? When are secrets necessary? And how do you live as an integrated person where your public face is the same as your private face? Can it be done? And if the instinct is it can't, why can't it?
Alors, je pense qu'effectivement, le thème de la rédemption, c'est vraiment un thème que je risque d'aborder pour toute ma carrière. Moi, ce que j'aime savoir, c'est quand est-ce qu'on est tellement mauvais que, pour le public, on ne peut plus obtenir de rédemption, que c'est plus possible. Mais normalement, on n'arrive pas à ce point-là parce que l'écrivain est bon. Hein. Donc vraiment, c'est un sujet que j'ai l'intention d'explorer pendant longtemps. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est donc de savoir ce qu'on fait quand on a du pouvoir, quand on fait le mal, comment on fait pour se rattraper à la fois auprès des gens et auprès de la société en général. Dans la série du Porteur de Lumière, je voulais essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'est une personne intègre. Est-ce qu'on peut vraiment l'être, surtout quand on est quelqu'un de, enfin, une personne connue, enfin, quelqu'un de public. Qu'est-ce que les secrets peuvent vous faire? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir des secrets? Est-ce qu'on peut être le même en public et en privé? Et si on ne peut pas, pourquoi?
Mais vous n'avez rien dit sur le Black Mirror.
Non, you'll have to wait.
J'ai tenté la chance.
Except it all comes together beautifully.
Sauf que vraiment, vraiment, c'est vraiment un super bouquin.
Bon, il y a des choses qu'on peut ne pas vous pardonner quand on a lu L'Ange de la Nuit. Un peu comme on peut ne pas pardonner à George Martin, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pour vous, on peut prendre la décision ultime de l'auteur de supprimer un personnage, le faire disparaître de la scène? Rien dire, je passe pas une
idée. I want to certainly just want my career and it was a little more wanton earlier on. Make sure that I'm not killing characters just to shock you, just to be like, ha ha, I can kill characters just like George Martin can. I'm not interested in the Me Too.
Non, juste à ce point, enfin, à ce moment-là de ma carrière, franchement, quand je tue un personnage, c'est pas juste pour vous choquer, pour faire genre, ah, je peux le faire comme George Martin, c'est vraiment pas le but, c'est pas juste pour vous choquer.
Ned Stark est mort parce qu'il est idiot.
At the same time, I want to have this sense of, for readers, you think you know where we're going, and you don't. Sorry, and in life, like, okay, this character has all these plans, and he's going to enact them. We're going this way, and then he just dies, and that's scary and that's frightening. And it's like real life sometimes. Like, and so, where do things go from here? That is surprising, and that's what death is like. Sometimes it comes, and a friend dies in a car accident. And it's like that shouldn't have happened. Where do we go from here? So I'd like to leave readers with a little uncertainty about what am I going to do next, and can they trust me? And the book will tell a good story even without that character, even without it going the direction that we thought. Can I give you an ending that's better than you hoped for?
Alors, oui, personnellement, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir la sensation que le lecteur sait où on va, et en fait, non, pas du tout. Donc, des fois, effectivement, il y a des personnages, ils ont prévu, ils ont plein de projets en tête, et puis ils meurent. Alors, oui, c'est sûr, ça fait peur, mais c'est un peu comme après. Mais c'est comme la vraie vie, puisque vous pouvez avoir un ami qui meurt dans un accident de voiture demain. Et il faut bien continuer, mais comment est-ce qu'on continue? Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que le lecteur ne soit pas certain de ce qui va se passer, qu'il se pose des questions. Est-ce qu'il peut me faire confiance? Et surtout, est-ce que si je tue un personnage, je peux m'en sortir quand même, continuer à écrire une histoire intéressante, même si forcément on ne peut pas suivre les projets d'origine, et est-ce que je peux surtout avoir une fin intéressante malgré ce personnage qui est mort?
Bien, malheureusement, l'heure est passée très très vite. Si vous voulez revoir Red Wix, vous attendez jusqu'à ce soir 17h. Nous allons reparler ensemble avec d'autres auteurs cette fois. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous aimez, et c'est souvent le cas en fantasy, c'est plus le cas en fantasy, si vous aimez les choses grises, les personnages non manichéens, les renversements de personnalité parce que la fatalité, parce que la vie vous change, chez Brad Wix, vous trouvez ces personnages-là et c'est vraiment génial à lire. Voilà. Merci à vous et merci à Brad Wix.